والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بشفاعه الإسلام، nous savons que pour obtenir le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que le musulman ait les qualités pour accéder au paradis, le musulman se doit de faire un effort dans l'accomplissement des bonnes actions. Nous nous devons également de faire un effort, le maximum d'efforts, dans l'éloignement de tout ce qu'Allah ta'ala a rendu haram. Et c'est ce qu'on a vu la dernière fois, l'impact des péchés, grands péchés qu'on connaît certainement, mais autre chose qu'on ne connaît pas vraiment, on ne se doute pas de leur effet, hein, l'effet des petits péchés sur le cœur et sur le iman. C'est ce qu'on avait essayé d'expliquer la dernière fois. Et il faut qu'on comprenne bien que le prophète alayhi salatu wasalam avait dit que la chose qui pèsera la plus lourde le jour de la résurrection dans le compte, c'est-à-dire dans la balance, ce sera al-khuluqul hasan, le bon comportement du musulman. Alors nous avons très souvent entendu parler du bon comportement, et d'une manière générale, les messages qu'on essaie de faire passer sur le bon akhlaq du musulman, alhamdulillah, on l'a entendu plus d'une fois. Mais il y a quelque chose à propos de laquelle parfois on ne donne pas autant d'importance, malgré le fait que parfois on va trouver quelqu'un qui dans ses actes d'adoration, il est alhamdulillah comme il le faut, dans son comportement avec les gens, alhamdulillah, cette personne a les qualités qu'il faut, mais parfois il nous manque dans le cœur la présence de rahma, ce qu'on appelle en arabe ar-rahma wa shafaqa, c'est-à-dire de l'amour pour son prochain. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand on voit que certaines personnes, quand il y a des personnes qui essaient de convaincre les gens de notre communauté d'aller parfois vers d'autres religions ou vers d'autres idéologies, ils disent souvent que dans notre religion à nous, c'est-à-dire dans d'autres religions, tout est amour. Dieu est amour et tout ce que nous faisons, c'est rempli d'amour. Chez vous, dans l'islam, il y a tellement de mises en garde, il y a tellement de versets coraniques ou de paroles prophétiques qui parlent du feu de l'enfer, qui parle des punitions dans la tombe, ou alors des punitions au moment de quitter ce monde, l'agonie de la mort, etc., etc., dit que vous avez une religion très dure, une religion remplie de textes extrêmement difficile à accepter pour un être humain, pour un homme. Et donc, nous nous devons parfois de rappeler que notre prophète, alayhi salatu wassalam, il a toujours donné l'importance, et Allah, azza wa jalla, avant cela, l'importance sur ce qu'on appelle ar-rahma, le fait d'aimer son prochain. Et lorsqu'on parle d'aimer son prochain, on ne distingue pas le musulman du non-musulman. Lorsqu'on parle de rahma, de gentillesse, de bonté dans le cœur, alors dans ce cas-là, on ne différenciera pas un être humain, qu'il soit musulman ou non-musulman. Et je dirais même plus loin, on ne différenciera pas un être humain d'un animal. À partir du moment où on a affaire à un être vivant, on suit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui agissait de la meilleure des façons avec n'importe quelle créature d'Allah. Parce qu'avant tout, les gens que nous côtoyons, ou même les créatures qui ne sont pas humains, ce sont avant tout des créations, des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, des makhlouqat qu'Allah a créées et a mis sur cette terre, et chacune de ces créatures donc mérite le respect. Un hadith très connu dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte, hadith rapporté par Abu Huraira radhiyallahu anhu, dit qu'il y avait une fois un homme qui marchait, hein, qui était en chemin, et cet homme avait très soif. Ce hadith, on l'a entendu peut-être 1000 fois, mais on le répète, ça c'est un rappel. Cet homme avait très soif, et cette personne a trouvé un puits, il est descendu donc dans le puits, il a pris de l'eau, et alhamdoulilah, il a bu. Et lorsqu'il est sorti du puits, cet homme a vu un chien qui haletait, tellement ce chien avait soif, mais le chien ne pouvait pas descendre dans le puits. Donc ce chien allait presque mourir de soif, et il léchait le sol avec sa langue pour essayer de trouver un peu d'humidité dans le sol. Alors cet homme est descendu parce qu'il a su que moi, quand j'avais soif, dans quelle difficulté j'étais. Et là, c'est une créature également qui a eu soif, qui a soif comme moi, j'avais soif. Et donc, il s'est décidé de porter secours à cette créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'homme est descendu dans le puits et il a pris sa chaussure, hein, il a rempli l'eau dans sa chaussure et il a tenu sa chaussure entre ses dents et il est remonté. Donc les termes descriptifs du hadith sont extrêmement précis pour montrer que cet homme a fait un effort pour cette makhlouqat.
Cet homme a fait un effort pour cette créature d'Allah. Hein, il est descendu, il n'avait pas de récipient, il a pris ses chaussures. Hein, il montait les échelles, les échelons, et il tenait entre ses dents, donc sa chaussure, de laquelle il avait mis de l'eau. Et lorsqu'il est remonté, il a donné ce chien à boire, et فَسَقَ الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى. Il a remercié Allah de lui avoir donné la possibilité d'aider une de ses créatures. Et à la fin, le prophète me raconte que فَغَفَرَ لَهُ. Et Allah Ta'ala a pardonné à cette personne. Pour quelle action cette personne a donné de l'eau à une créature d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et là, on voit de quelle créature. L'exemple n'est pas au hasard. Ainsi, c'est l'exemple du chien. Nous connaissons que dans la chariat, l'animal le plus impur, bien sûr, après le porc, c'est la question que je ne pose même pas, l'animal le plus impur, c'est le chien. Le Prophète a dit dans un hadith en ce sens que si vous avez un récipient dans lequel un chien a bu, alors vous ne pouvez pas utiliser ce récipient, ce bol, cette gamelle ou cette assiette, peu importe, sans que vous ne l'aviez lavé, si je ne me trompe pas, 7 fois, et la 8e fois, avec, 7 fois, c'est-à-dire avec de l'eau, et la 8e fois avec de la terre, j'ai des doutes sur le nombre de fois, ou alors 6 fois avec de l'eau, et enfin 1 fois avec de la terre. C'est-à-dire que même si on le lave 6 voire 7 fois avec de l'eau, le récipient restera najis, le récipient restera impur, et puis ça ne va pas entrer dans des détails scientifiquement, c'est prouvé que de la bave du chien, il y a de telles bactéries que même l'eau n'arrive pas à enlever. Et donc le fait de le laver avec la terre à la fin, ça enlève définitivement toutes les bactéries. Bref, pour aucun autre animal, mis à part le chien, il n'y a eu un masla aussi pointilleux concernant la tahara, le fait de nettoyer que ce soit les récipients. Vous savez que si vous avez on a de la bave de chien sur le vêtement, mais on ne peut pas faire la salat, parce que la bave du chien, c'est la bave la plus impure, contrairement au chat, ou contrairement à d'autres animaux. Bref, pourquoi on comprenne bien que le chien est considéré comme étant l'animal le plus impur. Maintenant, si quelqu'un garde un chien pour comme gardien de sa cour, c'est autre chose. C'est d'autres masses-là, ce n'est pas le but, à condition que l'animal ne rentre pas à l'intérieur de la maison. Donc, l'exemple est donné à partir de l'animal le plus impur dans la charia, et malgré cela, malgré le caractère impur de cet animal, le fait d'apporter secours à cette makhloukhat, à cette créature, c'est un acte d'adoration, et cela a provoqué le pardon. Grâce à cela, cette personne a été pardonnée par Allah Ta'ala, et Allah Ta'ala a été satisfait de cette personne. Et lorsque le prophète والسلام, a raconté cette histoire, cette anecdote, et ça a dit au prophète d'Allah, inna lana fil baha'im ila ajra, il a dit au prophète d'Allah, est-ce que même en venant en aide aux animaux, aux êtres, non, c'est-à-dire à d'autres que les êtres humains, est-ce qu'avec les animaux également nous avons des récompenses? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que pour tout être vivant, il y a des récompenses. Allah Ta'ala récompense pour le fait de venir en aide à n'importe quel être vivant. Alors en commentaire, le muhaddith nous explique que si pour un animal il y a autant de thawab, autant de récompenses que le fait de faire le khidma, de venir en aide, que dire maintenant d'une personne qui vient en aide à un être humain? Et maintenant, que dire d'une personne qui va venir en aide à un frère musulman, un membre de sa famille, ou une personne qui habite dans son entourage? C'est-à-dire, d'une manière générale, venir en aide à une personne qui est en difficulté. Et pour venir en aide à une personne qui est en difficulté, il faut avoir un cœur large et un cœur ouvert. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils voient des personnes dans les difficultés, dans les taklifs, mais le cœur est tellement dur que ça ne le fait ni chaud ni froid. Que la personne soit malade, que la personne soit mourante, que la personne soit pauvre, elle a été expulsée de sa maison, elle a tel problème, elle dit chacun son but de nos jours, c'est nafsi. Des gens qui réagissent comme ça. Mais ça, c'est totalement contraire à ce que notre prophète, alayhi salatu wasalam, nous a enseigné. Je ne dis pas en termes de akhlaq, on ne parle pas de comportement, je parle d'amour propre, de sentiments humains à l'égard de notre prochain, et dans ces sentiments humains, je le répète encore une fois, on ne distingue pas le musulman du non-musulman. Et là, un exemple de Hazrat Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, à l'époque où il était khalif, où il était donc calife. On connaissait que Omar ibn al-Khattab, pendant la prophétie, c'était l'homme le plus dur, les gens avaient peur de lui. Et lorsque Abu Bakr est décédé et les gens savaient que Omar allait être désigné calife, les gens avaient peur, ils disaient que là Omar il va être tellement dur avec nous, ça va être la pire des périodes. Et bien au contraire, Omar radiallahu anhu a montré un tout autre visage. Quand il a eu la responsabilité des musulmans, il était l'homme le plus gentil et le plus accessible de tous. Et c'était la personne qui, certainement, était le plus aux soins des musulmans. Il allait voir si les gens ils avaient à manger, s'il y avait des femmes veuves qui n'avaient rien à manger, des orphelins. Hein, vous connaissez pas mal d'histoires sur Hazrat Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Alors une fois, Hazrat Omar, il a vu une personne qu'on appelle les Ahli Dhimma. Ahli Dhimma, c'est qui? C'était sous l'Empire islamique, sous le Khilafa, Khilafa al-Rashidin, bien sûr, où il y avait des personnes d'autres religions. Que la personne soit chrétienne ou la personne soit de confession juive. Et que cette personne n'accepte pas l'islam. Alors, hein, est-ce qu'il faut le trancher la tête? Ça, c'est peut-être ce que certains extrémistes vont dire. Alors, la loi, c'est quoi? La personne qui veut rester dans sa religion, ben, on sait qu'Allah Ta'ala dit que la ikraha fiddin. Hein, on lit ça tout le temps dans Ayatul Kursi. La ikraha fiddin, en ce sens, il n'y a aucune contrainte dans la religion. Quelqu'un veut rester chrétien, ben, on ne va pas l'obliger. Quelqu'un veut rester à la confession juive, on va le laisser. Alors, la personne qui vit dans le pays des musulmans, cette personne doit payer ce qu'on appelle al-jizya. Al-jizya, c'était quoi? C'était une somme d'argent, mais c'était symbolique. Une somme d'argent, vraiment, c'était moins que la zakat. La zakat, c'est 2,5%. C'est une somme d'argent vraiment symbolique que la personne versait au amir al-mu'minin, au chef des croyants, et par cette somme versée, il bénéficiait de tous les droits de la cité. C'est-à-dire qu'il bénéficiait, entre autres, de la protection de l'armée musulmane. Si le pays était attaqué par d'autres forces, ben la personne-là, elle était sous la protection de l'armée musulmane. Tout comme l'armée protégeait les musulmans, les femmes musulmanes, les enfants musulmans, ben ce chrétien était sous la protection de l'armée parce qu'il paye cette somme symbolique et la personne, on ne l'obligeait pas à aller au front. Donc c'était vraiment, c'est-à-dire, bon, sans rentrer dans les détails, même dans la période andalousie, hein, Andalous, en Espagne, hein, ils disent que la plus belle des époques qu'ils ont connues, c'était lorsque les musulmans régnaient en Espagne. Et la pire des époques, c'est lorsque les musulmans ont perdu l'Andalousie et que c'était l'autre royaume qui est revenu. Bref. Donc, il dit que Hazrat Omar dit qu'il a vu une de ces personnes, hein, de chrétiens ou de confession juive, cette personne était en train de mendier. C'était une personne âgée. Cheikhoun Kabir, quelqu'un qui était déjà âgé, il était en train de cogner à la porte des gens et demander à manger ou alors la sadaqa, hein, l'aumône. Et Hazrat Omar, il a regardé cet homme, il a dit que nous ne t'avons pas donné ton droit. Il a dit que akhadna minka al-jizya. Lorsque tu étais jeune, on prenait le jizya, ce qu'on vient d'expliquer. On prenait de toi le jizya lorsque tu étais jeune. Maintenant que tu es âgé, ben plus personne ne s'occupe de toi. Alors Hazrat Omar, il a pris conscience du cas de ce vieux monsieur et wa amara bi an yujra alayhi qutahu min bayt mal musa. Et Hazrat Omar a ordonné à ce qu'on donne une rente régulière à cet homme. De quel argent? De Baytul Muslimin, Baytul Man. Baytul Man, c'est quoi? C'est l'argent public. L'argent où tous les musulmans ils déversent et où pour occuper des chemins, n'importe quoi. Hazrat Omar dit qu'à partir de maintenant, tous les mois, tu auras un revenu de Baytul Man. Parce que tu habites dans le pays des musulmans. Alors maintenant, mes chers frères, comparez la manière d'agir de qui? Ça, c'est pas un grand bouzouk, ça. C'est Hazrat Omar, le deuxième calife de l'islam, celui qui a vécu à l'époque, quoi, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment il agissait avec quelqu'un, avec un être humain, qui n'était pas musulman, avec un nasara ou un yahoudi. Regardez son comportement. À chaque fois que je me trompe, je dis comportement. Regardez l'amour propre qu'il y avait dans son cœur pour un être humain. Et ça, c'est une leçon pour nous. On doit retenir qu'un musulman doit avoir de l'amour propre pour n'importe quelle personne, quelle que soit sa religion. Et maintenant, un exemple classique, ça c'est très connu, Hazrat Omar. Une fois, les paysans, ils ont vu Hazrat Omar en train de sortir de sa maison en courant, en ce sens, et il allait vers un endroit qui s'appelle Al-Abtah. Donc c'était un endroit un peu éloigné de la ville. Ils ont dit, « Oh, mais le mu'minin, où est-ce que vous allez hein, avec votre montre ?» Il a dit qu'il y a un chameau qui fait partie des chameaux de la sadaqa, que les musulmans ils ont donné en sadaqa. Ben, le chameau s'est échappé et je vais aller le chercher. Et là, ils ont dit, « Oh, Omar, comme ça, tu t'occupes du sort de n'importe quelle chose qui appartient au Baytul Mal. » L'histoire est un peu longue. Et Hazrat Omar, il a dit en conclusion, il a dit que même, je fais pas semble que même s'il y a, hein, il y a un anak, s'il y a une chamelle qui était près de l'Euphrate, hein, il y a une version qui englobe Hazrat Omar et son petit-fils, Omar ibn Abdel Aziz, il a dit que s'il y a une chamelle qui, comment on pourrait dire ça, qui perd son chemin près du fleuve de l'Euphrate et qui, à cause du chemin qui n'a pas été nettoyé ou alors des arbustes, qu'on n'a pas enlevé cette chamelle, elle se perd et elle meurt de faim, je crains qu'un jour on me demande des comptes à propos de cela. C'est-à-dire que si une chamelle qui appartient aux musulmans, qui se perd dans les arbustes près de l'Euphrate et qu'elle meurt dans cet endroit à cause du fait qu'il y avait des arbustes, des épines, elle n'a pas pu sortir, je crains qu'Allah Ta'ala me demandera un jour, le jour de Qiyamah, « Oh Omar, pourquoi est-ce que tu ne t'es pas occupé du sort de cet animal? Pourquoi tu ne t'es pas acquitté de ton devoir ?» Tellement Omar ibn al-Khattab et également son petit-fils Omar ibn Abdul Aziz, hein, ils prenaient beaucoup de précautions dans n'importe quel makhloukat, que ce soit un musulman, que ce soit un être humain d'une autre religion ou alors d'un animal. Et de nos jours, on entend plein de choses sur le droit des animaux, mais il faut remonter un peu la pendule pour voir comment le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné des conseils concernant le fait de bien agir avec n'importe quel makhloukat. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans une version, il est dit que Hazrat Moussa alayhi salam, une fois il avait parlé à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ta'ala il avait expliqué qu'une fois il observait Hazrat Moussa et Allah ta'ala avait apprécié un geste de Moussa alayhi salam. C'était lorsque Moussa, avant de devenir prophète, il avait son troupeau de moutons. Et en parenthèse, tous les prophètes, la plupart des prophètes, ils étaient bergers. Et il y a une hikmat dedans, parce que le berger va apprendre la patience et il va apprendre comment yani, respecter également les créatures d'Allah tout en étant patient. Alors donc cette histoire illustre ce qu'on est en train de dire. Moussa alayhi salam, il avait ses moutons et il y avait une brebis, c'est-à-dire un petit mouton qui s'est échappé. Alors Moussa alayhi salam s'est mis à courir derrière ce petit mouton. Il a couru, le mouton il courait encore plus vite. Jusqu'à un moment donné, Moussa alayhi salam a pu l'attraper. Et lorsqu'il a attrapé ce petit mouton, il a dit « Ya miskina ad'ab » At'abtini wa at'abti nafsi. Il a dit, oh pauvre animal, tu t'es fatigué et tu m'as fatigué moi-même. Et puis Moussa l'a pris avec muhabba, avec amour, et l'a serré contre lui. Il aurait pu frapper cet animal qui l'a fait courir. Et Allah Ta'ala a apprécié le geste de Moussa alayhi salam, qui a montré de l'amour même pour cet animal. Et maintenant, pour revenir à ce qui nous intéresse, maintenant qu'on voit autant de divergences qu'il y a dans la communauté, comment dans la communauté musulmane, malheureusement, on ne s'entend plus, on n'hésite pas à casser son prochain ou à raconter à tout le monde les défauts de son prochain. Après avoir vu les droits de toutes les makhloukats, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, hadith d'Abu Huraira, « Man satara akhahu al-muslimi fi dunya satarahu Allah fi dunya wal-akhira. » Celui qui cache les défauts de son frère musulman, alors Allah Ta'ala cachera ses défauts le jour de Qiyamah. Dans certains hadiths, il dit que le jour de Qiyama, les gens ils sauront qu'est-ce qu'on a fait comme bonne action et qu'est-ce qu'on a fait comme péché. Devant tout le monde, les gens ils vont savoir. Mais pour la personne qui, dans ce bas monde, il savait que son frère musulman il faisait tel péché, et en plus de l'aider, de lui donner des conseils, de lui donner da'wah, la personne faisait en sorte que personne ne sache quel péché mon frère fait. Il essaie de préserver l'honneur de son frère musulman. Alors le jour de Qiyama, Allah Ta'ala cachera les péchés de cette personne. Alors là, très souvent, on pense que agir correctement avec son prochain, c'est juste aider financièrement, ou alors parler de manière correcte. Non, même si cette personne a fait une erreur, de un, savoir pardonner, ça c'est, on avait déjà expliqué, mais en plus de ne pas dire aux gens que telle personne, il fait ça, telle personne m'a violé tel endroit, Ali il m'a violé son enfant, il s'en boite, ou Ali il fait telle chose, non. Si quelqu'un a fait une erreur, on se doit de cacher ses péchés, afin que le jour de Qiyamah, Allah Azza wa Jal cachera nos péchés, et Allah seul sait quelle quantité de péchés nous avons et comment on a besoin de la clémence d'Allah le jour de Qiyamah. Et le prophète rajoute à la fin, on va terminer avec ce hadith, وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ, hadith est long, est celui qui enlève son frère musulman d'une difficulté. Parmi les difficultés de ce dunya, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'enlèvera ou le préservera d'une difficulté du jour du Qiyamah. Et on ne compare pas les difficultés de l'au-delà avec les difficultés de ce monde. Si, ici, on a entendu qu'il y a une personne, il a des difficultés financières et que nous, on peut l'aider. Ou alors, il a des problèmes dans son couple, on a été capable de lui apporter de l'aide, de parler avec la personne et tout, de lui faire comprendre certaines choses. Ou alors, quel que soit le problème que cette personne avait, on a pu aider cette personne. La personne était dans un pétrin, si on pouvait dire, et on l'a enlevé de cette situation difficile, on a apporté notre aide, soit financièrement, soit physiquement, soit notre réconfort moral. Alors le jour de Qiyamah, Allah Ta'ala nous protégera de la même manière d'une difficulté, mais c'est d'une difficulté du jour de Qiyamah. Parfois, vous savez mes frères, aider son prochain, ce qu'on appelle faire du social, avec le niat de rechercher le contentement d'Allah Azza wa Jal, ça peut nous apporter beaucoup plus de récompenses que de passer une nuit entière de tahajjud, de faire quantité de ibad. Aider son prochain, ça c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala apprécie énormément. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les sahaba, il faisait énormément d'efforts dans son chemin. Et pour conclure, le prophète m'a dit Wallahu ta'ala fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi al-muslim. Et Allah subhanahu wa ta'ala aidera, Allah ta'ala, vous pouvez traduire comme ça, vous aidera tant que vous aiderez votre prochain. Tant qu'on sera prêt à aider notre prochain, Allah Ta'ala nous aidera. Parfois, quand on est dans la difficulté, on se dit, ben Allah, aide pas nous, on nous les donne ta clé depuis un an, deux ans, j'ai des problèmes, telle situation. Mais à nous de réfléchir, quand on a vu notre voisin ou notre cousin, notre camarade dans la difficulté, est-ce qu'on a pensé à lui apporter de l'aide? Quand on pensera à aider notre prochain dans la difficulté, là, quand nous aussi, on sera dans des taklifs, assurément, Allah Ta'ala, il nous viendra en aide. Qu'Allah Ta'ala nous tawfiq de comprendre donc ces quelques paroles. Hein, ça, ce hadith est merveilleux. Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fil sama. Ce genre de hadith, ça, on doit l'apprendre pas que ça. Que les gens qui font preuve d'amour et de bienfaisance envers leur prochain, alors pour ces gens-là, Allah Ta'ala aura pitié. Les gens qui font preuve de bienfaisance, les gens qui agissent bien avec leur prochain, qui ont de l'amour pour leur prochain, alors pour ces gens-là, Allah Ta'ala aura pitié. Après, ensuite il dit, « Irhamu man fil ard » et les pitiés pour les gens qui sont sur cette terre, et ceux qui sont dans les cieux auront également pitié pour vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on agit bien avec notre prochain, on pardonne lorsque les gens ils ont fait des erreurs, on est prêt à passer sur les erreurs de notre prochain, ou alors à cacher les défauts de notre prochain, à agir de la meilleure des façons, avoir la pitié dans notre cœur pour notre prochain, qu'il ait raison, qu'il ait tort. Alors dans ce cas-là, Allah Ta'ala aura pitié de nous, et les anges également, hein, en degré de flou, ils auront pitié de nous. Qu'Allah Ta'ala nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles, et qu'Allah Ta'ala il change nos mauvais comportements en bons comportements, qu'Allah Azza wa Jalla nous donne les qualités des musulmans comme les sahaba ils avaient, que leur comportement était un motif de guider pour l'humanité tout entière. Ma tawfiqi illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair.